Aujourd'hui, la masterclass d'Olivier Rollin avec Raphaël Bourgois.
Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux aujourd'hui à la Bibliothèque Nationale de France donc pour entendre cette masterclass d'Olivier Rollin. Olivier Rollin, vous êtes normalien, fils d'un médecin militaire mais que vous avez connu antimilitariste, devenu administrateur colonial mais anticolonialiste. Faut-il y voir les fondements de votre regard ironique sur l'histoire et les choses ? On aura l'occasion d'en parler. Autre élément important de votre biographie, qui aura évidemment de nombreuses répercussions, c'est en suivant votre père que vous découvrez l'Afrique, étant jeune, un continent qui nourrit plusieurs de vos livres, Port-Soudan, qui a eu le prix Femina en 94, Méroé et évidemment Un chasseur de lions. Car vous appartenez, Olivier Rollin, à cette catégorie qu'on pourrait appeler des écrivains voyageurs, mais attention, sans pour autant que vos livres ne soient forcément des récits de voyage. L'ailleurs vient ici comme un déplacement, une façon de situer l'histoire dans d'autres lieux, d'autres temps, pour prendre le recul nécessaire. Il est intéressant à ce titre de voir comment vous construisez ces récits et surtout ce qu'ils doivent au hasard. Nous allons nous y efforcé au cours de 7 heures. Une œuvre nourrie donc des voyages, mais aussi de l'expérience révolutionnaire qui n'est jamais très loin. Dès le début, dans Le bar des flots noirs, votre deuxième roman, c'était en 87, puis évidemment dans Tigre en papier en 2002, qui a eu le prix France Culture, et Le météorologue en 2014, que ce soit en Argentine, dans la France des années gauchistes que vous avez bien connue, ou en Russie soviétique, vous vous interrogez sur cette volonté de changer le monde et son corollaire, la terreur politique. Difficile de définir un style, comme vous avez l'habitude de le dire, chaque livre définit son propre programme ou à sa propre longueur d'onde, ça nous va ici à la radio, mais il y a sans aucun doute chez vous une recherche formelle qui est un moteur indispensable de l'écriture. Certains de vos projets, mais aussi les citations, les références qui courent tout au long de votre œuvre, sont en cela éclairantes. Elles renvoient principalement à des auteurs du XXe siècle comme Marcel Proust, James Joyce, William Faulkner, George Perec ou encore Francis Ponge, rien que ça. Nous allons au cours de cette heure avec vous voyager donc à travers votre œuvre, remonter à la source de vos romans pour tenter de comprendre quelle forme prend chez vous le travail de création. Mais je voulais vous entendre d'abord sur un mot, puisque vous y attachez évidemment en tant qu'écrivain une importance particulière, un terme, celui d'aventure. Est-ce que vous vous verriez plutôt qu'un écrivain voyageur comme un écrivain aventurier, Olivier Rollin ?
Non. Non, parce que quant à écrivain voyageur, il m'est arrivé autrefois d'écrire une phrase que je cite parfois quand on me pose la question, une phrase que je ne regrette pas, bon, qui était une pirouette comme ça, mais enfin, je disais que j'ai écrit donc que je n'étais pas un écrivain voyageur et qu'à tout prendre, je préférerais être un gentleman cambrioleur. Bon, phrase qui m'a valu une certaine fâcherie d'ailleurs, fâcherie qui dure toujours, enfin bon, avec les promoteurs de cette école ou de cette partie de l'écriture que sont les écrivains voyageurs. Bon. Je m'en plains pas, mais je ne suis jamais allé à Saint-Malo, par exemple, bien qu'étant incontestablement écrivain
oui, et fait
quand même assez
voyageur.
Bon, je n'ai jamais été convié à ces agapes. Mais donc je suis un écrivain et qui voyage, en effet, qui voyage par curiosité du monde, pour des raisons plus troubles aussi, enfin plus troubles, il n'y a rien de honteux, hein, mais je veux dire plus mystérieuse à moi-même, pour chercher quoi, je n'en sais rien, avec l'idée quand même que oui, que je vais découvrir quelque chose, pas seulement un pays ou mais aussi peut-être quelque chose de moi. Enfin bon, donc je suis incontestablement voyageur. Mais je sais très bien que, ce que je n'aimais pas dans ce mot-là, écrivain voyageur, c'était l'idée implicite, et même à l'époque, je crois, assez explicite, que la vraie littérature, c'était la littérature qui se baladait à Bornéo, dans les jungles du Mato Grosso, etc. Bon, tout le monde sait que nos plus grands écrivains, pour ne parler que des écrivains français, vous avez parlé de Proust, bon, tout le monde sait que le monde de Proust, aller au sud jusqu'à Venise et au nord jusqu'à Cabourg, enfin voilà, Malbec. Bien, donc voilà, il n'y a nulle suture obligatoire, nulle conséquence, enfin voilà, entre l'écriture et le voyage, ça me paraît très évident. Je ne me fais pas photographier avec un chèche sur la tête, etc. Non, je ne suis pas un aventurier. Je veux dire, je voyage, c'est tout.
Alors justement, les premiers voyages, c'est en Argentine, donc en Amérique du Sud. Vous êtes reporter, c'est au début des années 70, après les années de militantisme. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans cette rencontre. Et on est un roman, c'est votre second roman, Barre des flots noirs, un roman qui est assez mélancolique. Et quel regard vous portez sur ce...
Sur ce
qui n'est pas un premier roman, mais
non, c'est le second. Je porte un regard assez ironique ou partiel, un peu ironique sur ce livre. J'ai écrit que en représentant ce livre dans une grosse somme là qui s'appelle Circus. Que j'éprouvais un peu d'ironie, un peu de détachement vis-à-vis de ce livre parce que c'était mon second et il me semble. Peut-être pas inévitablement, mais en tout cas dans mon cas, mes premiers livres, je voulais un peu faire le malin. Bon, faire le malin, montrer de quoi j'étais capable, de faire des phrases extrêmement longues, de multiplier les allitérations. Enfin bref, il y avait un côté saut périlleux arrière que je m'autorisais assez facilement, assez libéralement, et qui le temps ayant passé, mes articulations étant devenues plus rigides, je trouve quelquefois un peu excessive. Voilà. Cependant, il y a des parties que j'aime bien dans ce livre, et notamment toute la partie argentine sur la terreur politique, enfin sur les enlèvements, etc. Celle-là me paraît relativement dépourvue d'affaiterie, et donc je ne regrette pas tout de même d'avoir écrit ce livre.
Oui, parce que la toile de fond, évidemment, sont les violences politiques, ces années de dictature en Argentine. Donc il y a déjà cette dimension politique, je dis déjà, dans votre œuvre, vous avez derrière vous des années de militantisme, Olivier Rollin. Comment est-ce que ça s'intègre dans votre travail d'écrivain à ce moment-là?
Mais à ce moment-là, je n'écris que, à vrai dire, pas uniquement quand même, j'écris aussi un peu sur les serveuses de bar, bon, mais notamment dans ce livre-là, j'écris essentiellement sur, en effet, la violence politique. Enfin, mon premier livre, qui s'appelle Phénomène futur, d'un titre mallarméen, porte là-dessus, sur la violence politique, sur la violence révolutionnaire, sur ce qu'il advient de gens qui ont cru à la révolution quand ça n'a pas marché. J'ai commencé à écrire pour cela, en fait. Puis là aussi, c'est une chose que j'ai souvent dite, mais j'ai commencé à écrire pour réfléchir sur les années de militantisme extrême, extrêmement radical, dans la gauche prolétarienne. Bon, lorsque tout cela s'est terminé, j'ai éprouvé le besoin assez normal de réfléchir à cette aventure. Alors là, c'était une aventure pour le coup, oui. De réfléchir à cette aventure et d'essayer de dans la mesure du possible, de séparer ce qui continuait à m'attacher à ce passé-là et puis ce dont je ne voulais plus jamais voir le retour, quoi. Et ma façon, pardon, de réfléchir, que je n'ai pas trouvé tout de suite, ça a été de commencer à écrire.
Et ça devait absolument passer par l'écriture. Vous n'avez pas été tenté par d'autres formes artistiques à aucun moment, Olivier Rollin ?
Non. Si j'avais été moins inculte à l'époque, j'aurais peut-être été tenté par le théâtre, par exemple. Mais enfin, qui est de l'écriture quand même. Mais certainement que... Oui, enfin non, c'était certainement quelque chose d'écrit, de toute façon.
Vous avez parlé de votre premier roman, Phénomène du futur. Vous l'avez dit, c'est le titre d'un poème en prose de Mallarmé. Est-ce que ça sonnait à vos oreilles comme un programme, vos oreilles de jeune écrivain, c'est-à-dire... À la fois la question du style, évidemment, et une approche poétique de l'écriture.
Bon, d'abord, Phénomène futur, le poème en prose de Mallarmé parle d'un temps, selon les mots de Mallarmé, d'un temps qui survit à la beauté. Bon, donc ça décrit un temps terrible, extrêmement sombre, et donc le montreur des choses passées. Le montreur des choses passées, c'est une des définitions qu'on pourrait donner, à mon avis, à l'écrivain. Bon, en tout cas, le montreur des choses passées, qui là est plutôt un forain, quoi, dresse une tente et sous la tente, il montre une femme d'autrefois. Voilà, et la beauté des femmes d'autrefois, alors que maintenant, tous les créatures, hommes comme femmes, sont devenus des êtres hideux, qui se traînent sur une terre dévastée, comme après un hiver nucléaire, par exemple. Bon. Donc ça décrit un temps très sombre. Donc ça n'était pas exactement un programme, mais c'était, disons, c'était ça attestait une considération très pessimiste et très, alors là plus que mélancolique, très sombre du temps dans lequel j'avais l'impression de vivre. Que dire encore là-dessus? Mallarmé. Bon, à l'époque, je lisais beaucoup Mallarmé. Je continue, d'ailleurs, ça m'arrive de m'y remettre. Mais ce que je voudrais simplement signaler pour me moquer un peu de moi aussi, c'est qu'il y avait là-dedans quelque chose comme la recherche de l'ésotérisme. Ça n'a pas été si facile, si évident de me mettre à écrire. Donc j'étais un gauchiste extrêmement radical. Pendant toutes ces années-là, j'avais plutôt du mépris pour la littérature et encore plus pour les littérateurs, bien sûr. Donc me mettre à écrire, je me demandais tout d'un coup si c'était pas me mettre à faire de la broderie, quoi. Et c'est une idée que j'ai perdue depuis, hein, je vous rassure. Mallarmé, ça me plaisait parce que c'était un peu ésotérique et donc il y avait quelque chose encore d'une société secrète. Moi, je venais d'une société secrète, enfin plus ou moins secrète, mais quand même, j'étais clandestin, etc. Donc, venant d'une société secrète, j'ai trouvé. Il a fallu que j'adopte la littérature comme une autre société secrète. Ce qui a entraîné, y compris, enfin, je veux dire, je pense qu'il y a maintenant aussi dans ce premier livre des obscurités qui ne sont pas nécessaires, qui sont des obscurités un peu que j'ai tendues devant moi pour me protéger.
Votre redécouverte de la littérature après ces années de militantisme, Olivier Rollin, j'ai pu lire que ça a passé par la lecture de Voyage au bout de la nuit de Céline. Comment est-ce que vous retombez peut-être sur ce roman?
Non, je tombe. Je crois que c'était un été et mes malheureux parents essayaient de me divertir, mais enfin les parents ne réussissent jamais à divertir leurs enfants, surtout quand même j'étais plus un gamin. Ça marchait pas et donc je passais mes journées plus ou moins parasées sur mon lit à rien faire. Mais un jour je me suis dit bon, faisant quand même si j'essayais de me remettre à lire après tout. Et donc, je suis allé dans une maison de la presse, dans un petit port méditerranéen où on se trouvait. Et là, je suis tombé tout de suite sur ce titre-là. Et à vrai dire, le titre m'a plu. Voilà, Voyage au bout de la nuit, je vous avais bien compris, étant donné ce que j'ai dit précédemment, déjà du phénomène futur, etc. Mais mes dispositions d'esprit étaient suffisamment sombres pour que ce titre me plaise. Par son côté sombre, évidemment, par son côté de grand sarcasme, par son côté aussi, voilà, anti-colonial, anti... Alors je sais bien que, bon, c'est... Enfin, ne vous en faites pas, je ne me fais pas d'illusions, je connais tous les détails, etc., enfin l'histoire de la vie de Céline, et je ne suis nullement un célinien, et encore moins peut-être après ce que, semble-t-il, on découvre de plus en plus. Bon, mais enfin, le fait est que ce livre, quand un jeune homme le lit, cela apparaît, et c'est d'ailleurs quand même un livre qui, oui, très sarcastique, très très violent, contre la guerre, contre les militaires, contre la colonie, contre, etc., contre une certaine société bourgeoise, et donc ce livre m'a, ça a marché entre nous, comme disait l'autre.
Alors très tôt, Olivier Rollin, dès votre troisième roman, vous ne vous interdisez rien, vous lancez dans un projet un peu fou qui est L'Invention du Monde, qui sera publié en 1993, donc très très ambitieux puisqu'il s'agit de faire tenir le monde dans un livre, de présenter dans sa simultanéité une journée précise qui est celle de l'équinoxe du printemps en 1989, de présenter toute cette journée dans un seul roman.
Oui.
Se fixer des défis impossibles, c'est indispensable quand on est un écrivain.
Je crois qu'il faut de temps en temps. On peut pas passer son temps à ça. On peut pas passer son temps à vouloir battre le record du monde de saut en hauteur. Bon, mais je dis saut en hauteur parce que j'ai un ami qui s'appelle Alain Borère. Vous voyez sans doute qui c'est. M'a dit après ce livre, c'est formidable. Tu as placé la barre à 10,50 m. Naturellement, tu es passé en dessous, mais c'est bien d'avoir tenté. Bon. Bon, alors oui, je pense qu'il faut de temps en temps se fixer. Enfin, c'est comme le dit Calvino dans une phrase que je mets, je crois, en exergue ou en postface du livre. Comme le disait Calvino, il faut que la littérature se fixe des buts impossibles à atteindre pour qu'elle continue à avoir une fonction, une utilité. Puis alors ça venait, cette idée du monde, enfin cette idée de décrire le monde entier venait de comme toujours, un livre vient toujours de 4, 5 ou 6 ou 7 petits ruisseaux de causalité qui se joignent pour former ce fleuve modeste ou immodeste qui est un livre. Bon, celui-là n'était pas modeste. Bon. Alors il y avait, bien sûr, ma curiosité du monde, etc. Il y avait le souvenir des. Bon, j'étais latiniste, j'avais fait des études de latin, etc. Donc le souvenir par exemple, du De Natura Rerum, ou des Rerum Natura, je sais jamais dans quel ordre il faut le dire. Enfin, bon, de Lucrèce, enfin voilà, de ce que j'appelle les grands poèmes totalisants, les grands poèmes globalisants. Il y avait l'envie de me mesurer à ça. Et je dois, là, je vais dire quelque chose en hommage à mon éditeur d'alors, qui est mort malheureusement maintenant, qui était Denis Roche. Et je me souviens là aussi très bien, moi qui ai très peu de mémoire curieusement, mais je me souviens d'un déjeuner où j'ai expliqué à Denis Roche quel était mon projet. Je n'étais pas sûr que ce fût très réaliste. Et Denis m'a dit, en somme, tu voudrais faire quelque chose comme les grands poèmes latins, etc. Et ça correspondait tellement en effet à ce que je voulais faire, que j'ai été enthousiasmé et que je m'y suis mis. Enfin, je m'y suis mis, puis après, ça a duré 5 ans, parce que c'est le livre qui m'a demandé quand même le plus de...
Oui, parce que vous faites un gros travail de documentation pour ce livre, et ça a été exceptionnel pour vous. Vous avez l'habitude de réunir énormément de documentation pour avant d'écrire.
Ça dépend complètement des livres, mais quand j'ai écrit Port-Soudan, ça ne demandait aucune documentation, à part les instructions nautiques sur le port de Port-Soudan. Bon. Mais il y a des livres qui demandent beaucoup de documentation, et j'aime bien je pense que presque tous les écrivains aiment assez ça, parce que c'est un temps où on est quand même déjà dans le livre, donc on a déjà un peu l'excitation, l'ambition, les illusions peut-être, enfin bref, on a cette fièvre qui nous porte quand on fait un livre, mais en même temps on n'a pas non plus les difficultés quelquefois très grandes et les anxiétés, les angoisses, les déceptions, qui vont quelquefois jusqu'à des moments de désespoir, enfin bon, qu'on a quand on écrit. Donc c'est oui, donc j'aime bien me documenter, et puis j'aime bien me documenter aussi parce que les libertés du romancier ne vont pas jusqu'à dire des sottises ou à dire des choses inexactes, enfin voilà, donc il est... Oui, j'aime ce moment-là. Mais là, c'était particulièrement long. Bon,
oui, parce que vous réunissez 500 journaux, je crois, à travers le monde,
qui
de cette journée d'équinoxe du printemps 89.
Voilà, qui se trouve d'ailleurs à présent, j'espère qu'il s'y trouve toujours, mais je n'en doute pas, à la Bibliothèque nationale, ou au département des manuscrits, enfin, bien que ce ne soit pas moi qui ai écrit ces 500 journaux, mais ça faisait partie donc du travail de préparatoire. Oui, 500 journaux, donc dans, je ne sais plus combien, 35 langues par là, dont j'ai traduit moi-même tous ceux qui étaient écrits dans des langues que je connaissais, tous les autres, le turc, le japonais, etc. J'ai dû confier ce travail à des gens, quelquefois en les payant, quelquefois c'était des bénévoles qui faisaient ça. C'était très compliqué de leur faire comprendre ce que je cherchais, puisque je ne savais pas ce que je cherchais, justement. Mais enfin, j'ai essayé de leur faire comprendre que je cherchais des choses humaines, quoi, pas des statistiques ou des chiffres.
Et alors justement, qu'est-ce qui va vous permettre de vous y retrouver dans cette documentation? Vous dites 5 ans, voilà, vous avez accumulé toutes ces informations. Qu'est-ce qui déclenche la possibilité d'écrire un roman à partir de tout ça, Olivier Rollin?
C'est c'est une idée qui m'est venue un jour, alors que je m'épuisais à classer de tas de façons différentes cette masse extraordinaire d'histoires, de noms, de lieux, etc., que j'avais, mais qui, en tant que tel, ne formait qu'un fatras, quoi. Et un jour, là aussi, dont je me souviens, c'était au Portugal, enfin, peu importe, mais si, parce que les premières lignes du livre emportent la marque. En tout cas, je me suis dit, au fond, il faut que j'organise ce livre. Comment dire, c'est difficile à expliquer, mais enfin, ce que j'ai appelé une bibliothèque implicite, c'est-à-dire qu'en fait, je vais me servir, tourner autour, paraphraser, rendre hommage à, etc., d'autres livres dans la littérature universelle qui ont, d'une manière ou d'une autre, parlé du monde entier, enfin, où le monde entier est supposé apparaître. Voilà. Alors, ça va depuis le tour du monde en 80 jours, mais quelquefois, le monde entier apparaît en une seule phrase. Bon. C'est le cas, par exemple, de l'évangile de je ne sais plus qui. Si Emmanuel Carrère était là, il pourrait me dire. Mais bon, je crois que c'est de. Enfin bon, bref. En tout cas, où le Satan emmène le Christ au sommet d'une montagne et il lui montre tous les royaumes du monde. Voilà. Bon, alors il n'y a pas d'autres descriptions du monde, mais quand même tout le monde entier est supposé apparaître dans cette phrase. Donc voilà, j'ai organisé cette masse énorme, de ce fatras énorme, en j'ai obligé ce fatras à se plier, à rentrer plus ou moins dans le moule de voilà d'une bibliothèque cachée.
Et vous l'avez organisé par thème, vous l'avez organisé par thème, peut-être pour vous y retrouver ensuite. Oui, est-ce que vous avez l'habitude de vous fixer comme ça des méthodes de travail, ou est-ce que vous êtes plutôt un écrivain
Non, je suis un impulsif.
Impulsif
et un intuitif. Mais là, j'étais bien obligé. C'était vraiment trop énorme. Et la question de la forme était vraiment absolument première. Enfin, sinon, ça n'existait pas, quoi. C'est tout. Je voudrais dire aussi, mais pour que j'ai été, ça m'amuse maintenant, mais j'ai écrit ce livre alors qu'Internet n'existait pas encore. Mais c'était tout à fait le dernier. C'était juste avant que ça commence à exister. Donc, je veux dire, je me plais pour rire à me dire que je suis un précurseur d'Internet. Et d'autre part, j'ai bénéficié quand même en revanche du fait que les ordinateurs, eux, existaient. C'était des machins assez considérables. Enfin, vous en souvenez tous. Mais si je n'avais pas eu un ordinateur, ça aurait peut-être été beaucoup plus compliqué de classer, en effet, tous les fêtes qui ont rapport à la nuit, tous les fêtes qui ont rapport au jour, à la pluie, au meurtre. Enfin bref, j'avais fait des fichiers comme ça.
Alors justement, vous l'avez dit, la forme est primordiale. Chaque livre définit son territoire. C'est une phrase que j'ai pu lire de vous, Olivier Rollin. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Comment est-ce que vous trouvez la forme d'une œuvre? Est-ce qu'elle s'impose à vous? Est-ce qu'elle est première dans votre réflexion?
Non, elle s'impose à moi, enfin dans le meilleur des cas. Il est évident, pour reprendre tirer un exemple de Francis Ponge, on n'utilise pas la même langue pour décrire un verre d'eau ou pour décrire la terre entière. Voilà. Il faut qu'en effet l'objet, si énigmatique ou si incertain qu'il soit, l'objet d'un livre doit susciter, oui, ce que j'appelle en effet sa longueur d'onde. Bon. Donc si je veux décrire un verre d'eau, ce que j'ai fait, puisque j'ai écrit un livre, je sais pas si on en parlera, mais en fait j'ai écrit un livre où je n'ai pas du tout singé Francis Ponge, mais en fait j'ai fait un peu la même chose que Francis Ponge, toute modestie gardée, c'est-à-dire d'écrire des tout petits objets. Bon, donc si je veux décrire...
À y regarder de près.
Voilà, si je veux décrire un galet, par exemple, ou une mouche, je ne vais pas utiliser la même langue, et non seulement pas la même langue, mais pas la même longueur d'onde de langue que si je veux décrire la planète entière. Alors cette chose-là, je dis, ça s'impose à moi dans le meilleur des cas, et ça s'impose d'emblée, dès le début. Je n'aime plus beaucoup Gracq, romancier, je dois le dire, comme ça j'aurai peut-être des gens qui m'engueuleront ensuite. Oui. Mais en revanche, je trouve toujours très intéressantes les réflexions de Gracq sur la littérature, et donc ça doit être en lisant, en écrivant, qu'il dit, c'est incroyable le nombre de décisions qu'on prend sans rendre compte dans la première page d'un livre. Et justement, voilà, dans la première page d'un livre doit venir ceci, qui n'est pas à proprement parler le résultat d'une réflexion stratégique, mais quelle va être la longueur d'onde? Est-ce que ça va être heurté? Est-ce que ça va être saccadé? Est-ce que ça va être secoué? Est-ce que ça va être déjanté, comme on dit? Ou est-ce que ça va être au contraire très sobre? Est-ce que ça va être une eau transparente? Toutes ces choses-là que je formule mal là se décident, et c'est vraiment l'objet hypothétique, l'objet un peu conçu du livre qui vous dicte cela. Enfin, en tout cas, c'est ça mon expérience.
Est-ce que, Olivier Rollin, cette expérience, elle a à voir aussi avec ce que vous avez appelé dans un livre en 1999, les paysages originels? Vous êtes parti à la recherche, comme ça, chez un certain nombre d'écrivains, Nabokov, Borges, Kawabata, Michaud, Hemingway, de ce que vous appelez leur paysage originel, c'est-à-dire ce paysage qui porte en eux et qui se retrouve, donc vous cherchez la trace dans leur récit. Alors, double question, évidemment, est-ce que cette longueur d'onde, elle prend racine dans ces paysages originels, et quel serait votre paysage originel, Olivier Rollin?
Oui. Bien, d'une part, je ne sais pas du tout ce que j'appelais le paysage originel, c'est donc un lieu, mais qui peut être quelquefois un micro-lieu. Enfin, dans le cas de Nabokov, par exemple, et là, j'en suis vraiment certain. Ça n'est pas simplement, c'est pas du tout Saint-Pétersbourg, par exemple. C'est la maison de ses parents, qui est dans un bled qui s'appelle Vila. Et c'est pas la maison en général, c'est la gloriette qui est dans le fond du parc, et c'est même pas la gloriette qui est dans le fond du parc, c'est les carreaux de couleurs, les losanges de couleurs qui forment une des fenêtres de cette gloriette. Bon, de cela, je suis absolument certain. Donc voilà, ce que je voulais voir, c'était les lieux, et donc les micro-lieux, comme celui que je viens de dire, et qui se retrouvent ensuite, et qui laissent leur marque dans toute l'œuvre. Et dans l'œuvre de Nabokov, c'est extraordinairement vrai. Bon. Alors moi, qu'est-ce qui serait ce lieu-là. D'une part, parce que je ne suis pas le meilleur analyste de mon œuvre. D'autre part aussi, à cause d'une qualité ou d'un défaut qu'elle a, sur laquelle on reviendra peut-être, c'est que je pense qu'elle est très disparate. C'est très difficile, enfin vraiment, entre par exemple ce livre, L'invention du monde, et puis celui que j'ai écrit ensuite, qui lui est très bref, très... qui est une histoire d'amour blessé, qui s'appelle Port-Soudan. Il y a franchement très peu de rapports. Enfin, donc je crois que ce serait difficile de trouver un lieu qui imprime son empreinte à travers tous mes livres. Bon, s'il y en avait un, il serait certainement, je pense, enfin, aquatique, maritime, sans doute. Voilà. Bon, mais
salade de vos années en Afrique, où vous passiez vos journées à chasser à la chasse sous-marine.
Oui, peut-être. Mais enfin, c'est vrai que ces années en Afrique où j'étais, la chose qui m'intéressait le plus, c'était la chasse sous-marine, à laquelle je consacrais le plus clair de mon temps, beaucoup plus qu'à faire mes devoirs de français, par exemple. Ces années-là ont failli m'éloigner à jamais de la littérature.
Ça n'a pas été le cas, Olivier Rollin. On peut quand même parler dans ces paysages. Dans ces paysages originels, on peut parler d'au moins deux pays ou deux continents, l'Afrique est un continent, il y a un pays continent qui est la Russie, mais parlons de l'Afrique puisque on y est avec vos jeunes années, et de ces romans que sont Port-Soudan, donc qui a reçu le prix Femina en 94, et Méroé. Pourquoi le Soudan?
Mais pas à cause de mon enfance africaine, enfin en partie africaine, simplement parce que Port-Soudan est un livre extrêmement sombre, et même on peut dire un peu pathétique, peut-être même un peu trop pathétique aussi. Et je voulais situer l'histoire dans un pays qui soit quelque chose comme, enfin qui soit le plus infernal possible. Et dans mon idée, le Soudan, avait cette caractéristique, à la fois parce que le climat y est particulièrement éprouvant, comme vous le savez, et d'autre part parce que c'était et c'est toujours une dictature militaire, mais à la fois militaire et islamique, c'est-à-dire ce qu'on peut faire de mieux dans le genre. Et enfin aussi parce que il me semble que dans l'imaginaire littéraire français, la mer Rouge est un peu le lieu du malheur. Enfin, en tout cas pour moi, voilà, c'était à la fois Rimbaud en Abyssinie, Rimbaud ou au Yémen, et puis aussi un livre qu'on lisait beaucoup quand j'étais étudiant, qui était Aden Arabi, de Paul Nizan. Donc pour toutes ces raisons-là, j'ai choisi le Soudan sans y avoir jamais mis les pieds. Et j'ai décrit dans ce livre un Soudan d'imagination, et qui, je dois le dire quand même, pour rendre justice à ce pays, le pays que je décris dans le livre est quand même encore un peu pire que le pays que j'ai connu ensuite, parce que quand j'ai écrit Méroé, là j'étais allé au Soudan plusieurs fois même. C'est un pays qui a aussi, comme tous les pays d'ailleurs, ses charmes.
Alors justement, en parlant de Méroé, est-ce que ça fonctionne comme une réécriture de Port-Soudan? Vous disiez un livre peut-être un peu pathétique, une volonté de prendre un peu de distance, d'aborder un même pays, mais de façon plus ironique?
Oui, tout à fait. Oui, enfin, l'ironie, c'est pas tellement pour rendre justice au Soudan, parce que quand même, à vrai dire, je m'en fichais un peu, mais c'est surtout pour par ironie un peu vis-à-vis de moi-même. En général, les gens qui ont lu peu de choses de moi, le livre qu'ils ont lu et celui, le seul livre qu'ils ont lu et celui qu'ils préfèrent, c'est Port-Soudan. Bon, donc j'ai quelques scrupules à le critiquer, oui. Mais en tout cas, il m'est apparu au bout d'un certain temps que ce livre était quand même, enfin manquait en tout cas, alors ça j'en suis sûr, il manque rigoureusement d'humour. Bon, ce qui est quand même un peu gênant, puisque même dans les descriptions du malheur, puis il n'est pas mauvais de se moquer de soi. Donc j'ai été gêné au bout d'un certain temps par cela. Et puis aussi par une espèce de volonté de faire formule, quoi, de faire des phrases bien frappées, des phrases, le genre de phrases qu'on pourrait trouver en bas d'un agenda de la Pléiade. Là. Donc voilà, je me suis dit, il faut que je réécrive cette histoire, mais en étant plus, il faut que le narrateur soit plus ironique vis-à-vis de lui-même et plus de distance vis-à-vis de lui-même, se moque de lui aussi, et puis que l'histoire soit plus complexe, enfin voilà. Donc j'ai réécrit, enfin j'ai pas réécrit le livre, mais j'ai écrit une histoire qui est quand même assez comparable puisqu'elle se passe au Soudan, puisqu'elle est c'est aussi une histoire de séparation, mais c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a d'autres histoires qui se mêlent à ça. Enfin bref, voilà, je pense que ce livre est bien préférable et je pense même à vrai dire que c'est le roman le plus romanesque que j'ai écrit en tout cas. Bon, et il y a tout. C'est pas comme ça qu'on définit le romanesque, mais il y a même un meurtre. Enfin bon, on ne sait pas qui a commis le meurtre. Enfin voilà, il y a presque une espèce de suspense. Bon, donc je pense que ce livre est préférable de ce point de vue-là et même d'un point de vue littéraire. Et naturellement, il a eu beaucoup moins de succès que Port Soudan.
Il faut dire que Port Soudan a eu le prix Femina en 94, ce qui m'amène à cette question. Comment est-ce que vous vivez la réception publique, la critique de vos livres? Là, on voit que vous êtes disposé à faire vous-même votre autocritique. Excusez-moi ce jeu de mots facile, mais quel est vous en tant qu'écrivain? Voilà, comment est-ce que vous recevez la critique journalistique, par exemple?
Ça dépend.
Si elle est bonne ou mauvaise, vous voulez dire?
Oui.
C'est quelque chose que vous regardez
général,
ou pas du tout?
Oui, bien sûr, ça, je la regarde, oui, bien sûr. En général, je n'ai pas eu trop à me plaindre de la critique, donc je vais pas jouer ici les misanthropes ou les... Bon, j'ai eu plutôt des bonnes critiques. Il m'est arrivé d'en avoir deux ou trois, vraiment atroces. Je ne peux pas dire que ça fasse plaisir. Je ne peux pas dire non plus qu'on voue beaucoup de sympathie à ceux qui ont commis cela. Mais enfin voilà, dans ma vie d'écrivain, j'ai eu un peu de la chance. Ça m'est pas arrivé trop souvent. Donc voilà, j'en tiens. Enfin, ça m'intéresse, bien sûr, ça m'importe. En général, ça ne me bouleverse ni exagérément euphorique ni totalement désespéré, mais c'est tout de même très 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 agréable. Mais alors moi je suis un vieux de la vieille, donc je continue à croire que ce qui est important c'est d'avoir une page dans Le Monde, par exemple. Bon, et alors les gens modernes me disent mais pas du tout, ce qui est important c'est les réseaux sociaux, etc., j'en sais rien, les blogs et tout, enfin bon, moi,
France Culture
pas.
Évidemment,
mais France Culture aussi évidemment, vous voyez j'ai rarement été très attaqué sur France Culture. Et voilà.
Vous avez eu le prix France Culture en 2003.
Oui,
pour un petit peu de papier. Voilà. Comme ça, on a fini pour l'autopromo. Olivier Rollin, puisqu'on parlait de ces deux livres, Port Soudan, Méroé, et peut-être pour faire le lien, si on peut le faire avec cette autre zone géographique, la Russie, qui vous a occupé aussi dans d'autres romans. Et est-ce que vous diriez que ce qui vous intéresse dans ces paysages, c'est aussi des paysages désertiques, des paysages monotones? Le Soudan, évidemment, ça envoie à ça. Quand vous vous intéressez à la Russie, vous nous parlez de la région de la Kolyma, notamment dans Le Météorologue. Est-ce que c'est quelque chose sur les paysages qui vous parle particulièrement en tant qu'écrivain?
Oui, sans doute, je dois avoir une attirance un peu suspecte, un peu coupable pour des paysages un peu désolés, oui, c'est vrai, et pas très peuplés. Parce qu'il y a non seulement la Sibérie, il y a le désert soudanais, mais il y a même la terre de feu, par exemple, les Landes, dans Chasseurs de Lyon, par exemple. Bon, donc oui, je crois que j'ai une certaine attirance pour ça, plus que pour le très grouillant, le très peuplé, le très pittoresque. Voilà, je suis pas tellement un écrivain de ça. Mais bon, dans le cas de la Russie, puisque vous m'interrogez sur la Russie, il y a évidemment pas que ça quand même. Il y a, là aussi, je l'ai déjà dit souvent, mais que ceux qui m'ont entendu m'en pardonnent, mais il y a l'attirance pour l'espace illimité, enfin illimité, ou en tout cas dont les limites sont extraordinairement lointaines, ce que j'ai appelé, si... Je vais me citer parce que je ne vois rien de mieux à dire que ça. Le grand large sur Terre. Voilà, la Sibérie, c'est le grand large sur Terre. Bon, donc ça rejoint aussi mon côté maritime. Alors il y a cette attirance pour ces lieux-là. Oui, en effet, c'est ces lieux qui semblent sans bornes. Et puis il y a évidemment l'histoire, quoi. Il y a l'histoire du XXe siècle, il y a la grande tragédie des camps, du goulag, des exécutions, du stalinisme, des exécutions de masse, etc. Enfin, c'est cette autre grande tragédie du XXe siècle qu'il faut connaître si l'on veut connaître l'époque d'où nous venons.
C'est ce qui vous attire la première fois en Russie. Je crois que vos premiers voyages en URSS à l'époque, c'est 85 et 86. Pourquoi vous y allez, Olivier Rollin?
À l'époque, simplement parce que c'est complètement inconnu. J'ai inconnu de moi, mais même de la plupart. On ne sait pas. Il y avait très très peu d'endroits qui étaient accessibles de l'Union soviétique, les quelques grandes villes, et puis c'est tout. Et donc l'ouverture, même si c'était une ouverture relative à l'époque, mais l'ouverture relative de cet immense continent dont je voyais la figure sur la carte, sur une carte que j'ai toujours, sur une map monde que j'ai toujours, ça m'a donné envie d'aller voir à quoi ça ressemblait. Et donc c'est pas du tout certainement pas une attirance politique. Je n'ai jamais éprouvé la moindre attirance pour l'Union soviétique, pour la Chine de Mao, oui, mais enfin on peut pas avoir tous les défauts du monde. Donc je n'étais pas pro-soviétique. Voilà, c'est simplement voir à quoi ça ressemble, c'est-à-dire à quoi ressemblent les gens, à quoi ressemblent leurs occupations, à quoi ressemble tout, un bistrot. J'étais en été aussi, je voulais voir à quoi ça ressemblait les loisirs, les vacances, la plage, voilà, à quoi ressemblait ce monde-là.
Alors vous êtes sévère depuis tout à l'heure, Olivier Rollin, avec vos livres où vous avez l'impression de faire des phrases.
Je suis pas sévère avec mes livres, je peux de temps en temps dire que certains, il y a très longtemps, bien sûr, depuis je me suis corrigé, mais
bien
certains...
Bien sûr, bah justement, parlons d'un livre plus récent justement qui est Le Météorologue, où là, pour le coup, dans le style, il n'y a pas de... fioriture.
Non, il n'y a pas de recherche,
c'est beaucoup plus, comment dire, épuré, évidemment. C'est un style qui s'est imposé à vous du fait de cette histoire, d'un météorologue, donc, qui est envoyé au goulag, évidemment. Et...
Oui, mais bien sûr, là, enfin, je pense que ça, tout le monde comprendra ça, quoi. Il s'agissait d'abord d'une vie réelle, d'un personnage qui avait vraiment existé, d'un homme dont la vie avait été vraiment brisée et anéantie par la terreur politique, la terreur stalinienne en l'occurrence. Donc déjà, je ne me sentais pas... ça n'était pas le lieu de plaisanter ou de prendre des libertés ou de faire, justement, comme je disais tout à l'heure, ou de faire le malin, quoi. Il me paraissait évident qu'il fallait que le style soit le plus sobre possible, le plus neutre possible. Enfin, voilà, il ne faut pas non plus que ça ait la sécheresse d'un rapport, bien sûr. Mais enfin, il fallait quelque chose de très sobre. Et ça... Ça, comme d'ailleurs tout le reste, c'est un des livres, j'en ai eu presque honte quand je l'ai fini, enfin parce que quelquefois je me pose des questions inutiles, ou je m'impose des souffrances inutiles, mais j'ai eu presque honte du fait de l'avoir écrit si facilement. Parce que je décrivais une chose si affreuse quand même, et je l'ai écrit très facilement, en quelques mois, enfin bon. Et tout le plan, la longueur d'onde, justement, c'est-à-dire des phrases relativement courtes, le plan, des chapitres relativement courts, tout ça est venu avec une extrême facilité, une extrême évidence, parce que, encore une fois, le sujet me l'imposait, quoi.
Alors, il y a dans ce livre quelque chose qui est important dans sa jeunesse, c'est une rencontre, un hasard plutôt, la rencontre avec une correspondance, celle donc de ce météorologue, je vais me lancer pour le nom, c'est Alexei Fedosievitch Wangenheim, c'est comme ça qu'on dit à peu près, Olivier Rollin.
On peut dire Wangenheim, oui.
Wangenheim, c'est encore plus facile. Et donc, vous découvrez cette correspondance avec sa fille, qu'est-ce qui vous attire, comment dire, qu'est-ce qui vous frappe à ce moment-là et est-ce que vous diriez que c'est une situation qui s'est reproduite d'autres fois dans votre travail, c'est-à-dire que ce soit le hasard qui guide la naissance d'un livre ?
Oui, ça s'est produit au moins deux fois. Mais là, donc je travaillais sur autre, enfin pas sur autre chose, sur quelque chose qui était proche, mais sur un documentaire que j'ai fait avec une réalisatrice. Elisabeth Capniste pour Arte sur la bibliothèque du camp d'un camp qui a été grosso modo le premier camp du goulag.
Bon, Solovki.
Solovjin Solovki, oui. Et donc travaillant à ce film, à ce documentaire, on m'avait mis en présence, on m'avait montré des facsimilés de ces lettres et surtout des illustrations de ces lettres qu'un des détenus qui avait travaillé d'ailleurs à la bibliothèque du camp, qu'un des détenus envoyait à sa fille. Et bah, d'une part, j'ai été frappé parce que c'est beau. C'est beau, c'est un peu... C'est pas un très grand dessinateur, mais c'est un dessinateur un peu naïf, mais très efficace, si je puis dire. Les couleurs sont très belles. Donc voilà, il y avait d'abord un premier, et puis il n'y a pas que des dessins, il y a aussi des herbiers. Enfin, voilà, donc c'est d'abord une émotion esthétique, on peut dire. Et puis ensuite, tout de même, c'est l'histoire de ce père qui ne reverrait jamais sa fille, qui à l'époque avait 4 ans et demi, et qui essaie de continuer à faire son éducation à travers justement ces lettres qu'il lui envoie. C'était très émouvant, et ça m'a fait penser une chose d'ailleurs, c'est que je pense qu'une des choses qui est la plus cruelle dans la prison ou dans la déportation, ce doit être le fait de se sentir dorénavant complètement inutile. Et ça se voit dans les lettres de ce type. Bon, il ne sert plus à rien dans son domaine, qui était la météorologie, etc. Mais il n'arrête pas d'en parler. Il dit d'autres font ci, d'autres font ça, et moi je suis là, qu'est-ce que je fais? Et puis au moins, voilà, il y a sa fille. Il ne peut pas non plus à proprement parler l'élever comme s'il était encore à Moscou, mais au moins il essaie de continuer à être un peu utile à sa vie de cette façon-là. Donc voilà, c'est cette... Ceci m'avait frappé, et puis après j'avais non pas oublié, mais enfin en tout cas je n'avais pas eu le dessein de faire un livre. Et ensuite, en effet, 2 ans ou 3 ans après, j'ai rencontré quelqu'un à Moscou, un Français vivant à Moscou depuis très longtemps, etc., qui avait été l'ami de la fille à l'autre bout de sa vie, à l'autre bout de la vie de cette fille, quand elle était âgée. Et donc c'est cette double rencontre, enfin c'est ce qui en effet a déterminé le... Double rencontre qui est quand même due, pas tout à fait au hasard, parce que je veux dire, je m'occupais de toutes ces choses-là, mais enfin, cette double rencontre, je ne m'y attendais pas quand même. Et c'est arrivé une autre fois, dans quelque chose qui n'a rien à voir, enfin un livre qui n'a rien à voir, une fois de plus, qui est le Chasseur de Lyon, qui parle qui raconte les vies croisées, ou se croisant de temps en temps, de deux personnages qui n'ont en principe rien à voir, Édouard Manet, le peintre, et puis une espèce de matamore, d'aventurier assez grotesque du français du 19e siècle. Mais bon, ils se connaissaient tout de même, Manet a fait un portrait de lui, etc. Et je suis tombé à 2 reprises, mais là, beaucoup plus éloigné dans ma vie, sur des traces de cette histoire. Et c'est la seconde fois, là, on se dit, bon, il me cherche, bon, d'accord, tu me cherches, voilà, tu vas me trouver.
Oui, en effet, Chasseur de Lyon, qui est sorti en 2008, qui est un roman, donc un peu, qui traite presque de la farce, du grotesque de ce personnage pertuisé. C'était aussi le dispositif, on va dire, l'envie de départ, traiter un personnage comme un poncif sur pattes, en quelque sorte, Olivier
oui.
Rollin.
Oui, ça me plaisait que ce soit en terre de feu, enfin parce qu'en fin de compte, il exerce ses ravages, sa balourdise, cet aventurier, surtout en terre de feu. Et comme je vous ai dit, la terre de feu est un endroit que je connaissais déjà, mais enfin qui me plaît en tant que désolée, venteuse, lointaine, etc., etc. Mais ça me plaisait aussi, de m'essayer à faire un personnage de comédie. Bon. Personnage de comédie, mais qui réunit en lui quelques-uns des, mais de façon farcesque, quelques-uns des traits de l'Européen du 19e siècle. Il est, ou du 18e, enfin surtout du 19e, il est explorateur, il est trafiquant d'armes, il est magnétiseur, c'est une grande passion pour le magnétisme, il est chercheur de trésors, enfin bon, il y a plein d'espèces de mythologies comme ça qu'il réunit en lui, et tout ça de façon ridicule. Bon. Je savais qu'il était ridicule parce qu'il a eu le malheur d'écrire des souvenirs, ce type, bon, que j'avais lu. Et donc, même comme chasseur de lions, il était nul, bon. Et comme chasseur de trésors aussi, etc. Enfin bon. Donc voilà, ça m'amusait, oui, de faire un personnage farcesque.
Alors Olivier Rollin, évidemment, l'histoire a une grande importance dans votre œuvre. L'histoire avec sa grande H, comme aurait dit Pérec, évidemment, mais aussi des histoires plus intimes. L'histoire, on a parlé de l'invention du monde aussi, l'histoire d'une journée. On a parlé là d'un chasseur de lions, donc l'histoire d'un individu, Eugène Pertuisé, l'histoire de la Russie dans le météorologue. Et puis, il y a votre histoire militante qui nourrit un livre, Tigre de papier, en 2002. Vous parliez de Port-Soudan tout à l'heure comme étant votre livre le plus connu. Je pense que Tigre de papier fait aussi partie de ces livres très connu que vous avez écrit. Qu'est-ce qui a déclenché le besoin, l'envie, le projet de ce livre qui revient donc sur vos années Mao, vos années à la gauche prolétarienne, au tournant des années 60 et des années 70?
Bah, autant que je me souvienne, et quand même, c'est pas si lointain, donc c'est le sentiment que ce que nous avions fait autrefois, ce que nous avions dans la tête, quand je dis nous, c'est pas seulement les Mao, c'est enfin bon les groupes d'extrême gauche des années post-68, mais peut-être plus particulièrement nous, parce qu'on était quand même un peu plus fous que les autres, il faut bien dire. Et donc que ce que nous avions à l'époque dans la tête me devenait déjà presque incompréhensible, même à moi-même qui l'avais vécu. Bon, que j'avais du mal à comprendre nos raisons. Pourquoi est-ce qu'on détestait les livres, par exemple, des choses comme ça. Et donc je me suis dit, si à nous-mêmes de cette génération-là, notre jeunesse nous devient énigmatique, combien le sera-t-elle plus pour les gens qui ont maintenant 20 ans, 30 ans, etc. Or, il me semble, je n'aime pas dire qu'il y a des devoirs d'un écrivain. Un écrivain n'a pas d'autre devoir que d'écrire bien, si possible, et d'écrire scrupuleusement. Mais en tout cas, une des choses à quoi la littérature peut se s'atteler, c'est de faire en sorte que le passé ne meure pas complètement, que tous les expériences des gens qui nous ont précédés soient accessibles à travers des personnages de romans, à travers des situations de romans, etc. Donc je me suis dit, c'est le moment, il faut s'y mettre. Il faudrait quand même l'intelligence qu'on pourra avoir dans 10 ans, dans 20 ans de ces années 60, 68 et après, il faudrait que cette intelligence-là ne soit pas faut pas la confier simplement aux journalistes et aux gens qui travailleront sur des archives. Il faut aussi que quelque chose qui vient de ce qu'on a vécu devienne un livre. Voilà. Alors c'est pour ça, c'est vraiment parce que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi, enfin bon, pour d'autres raisons aussi, mais enfin la forme du roman, c'est au fond un très très long monologue, presque monologue, on me l'a reproché, mais que voulez-vous, je suis comme ça, un très long monologue qu'un homme de mon âge tient à la fille d'un ami à lui qui est mort, pour lui raconter qui ils étaient. Bon. Parce que, en effet, ce désir de transmission était grand. Alors, j'avais aussi envie de faire une œuvre littéraire. Hein. J'avais pas envie simplement de faire un cours, une leçon aux générations qui nous ont suivis. Mais tout de même, je souhaitais, et je souhaite toujours, que ce livre fasse comprendre quelque chose de la passion, à la fois sombre et lumineuse aussi, quelquefois, qui nous animait, quoi. Voilà.
Et finalement, on a le sentiment, Olivier Rollin, que votre moteur comme écrivain, c'est apporter une réponse à cette question: qu'est-ce qui m'obsède?
Ben oui. Oui, oui, oui.
Là, pourquoi ça m'obsède aussi?
Oui, pourquoi ça m'obsède, bien sûr. D'abord, qu'est-ce qui m'obsède et pourquoi ça m'obsède? Mais là encore, je me souviens à peu près d'une phrase de Gracq, toujours dans en lisant, en écrivant, je pense, où il dit, alors c'est une phrase assez compliquée, je sais pas si je... Enfin, il dit qu'au fond, un livre, c'est... Ça répond au besoin de savoir, ça répond à une obsession, et plus précisément au besoin de savoir quelle est cette obsession. Parce qu'en fait, on ne le sait pas bien. Il dit, c'est aussi impérieux, mais aussi mystérieux aussi qu'un nom qu'on a oublié et qu'on veut retrouver. Bon, donc ce nom, on ne l'a pas, il n'existe pas, mais en même temps, il va nous toute la journée entière nous tenir en haleine. Alors bon, voilà, on sent que certaines choses nous obsèdent, mais on ne saurait pas, avant d'avoir écrit le livre, dire quelle forme, enfin décrire un peu plus cette obsession. Bon, naturellement, à la fin du livre, on ne le sait toujours pas, ou on a changé d'obsession, etc. Mais enfin, disons qu'on a quand même progressé dans la connaissance de cette sollicitation un peu mystérieuse qu'il y a au début. Mystérieuse, mais impérieuse.
Mais alors justement, comment est-ce qu'on sait, Olivier Rollin, qu'un livre est terminé? Est-ce que, si on n'arrive pas à répondre à cette question, ne serait-ce qu'en répondant à votre obsession?
Je sais pas, quand on est épuisé. Non, oui, c'est assez mystérieux ça aussi, mais enfin, il y a des auteurs qui, paraît-il, qui font des plans, etc., qui savent que ça va se terminer de telle ou telle façon. Bon, moi, je suis pas du tout comme ça. Je sais plus ou moins vers où je vais, mais ça reste assez vague. Bon. Alors il y a un moment où on se dit, ben, c'est là qu'on allait. Ça peut pas se justifier, ça peut pas vraiment se défendre, mais on en est sûr quand même. C'est là. On en est sûr, ça veut pas dire qu'on a raison, peut-être qu'on aurait dû continuer, etc. Mais non, c'est nous qui savons quand même. Voilà. Donc c'est là. Oui, ça s'impose comme des choses s'imposent au départ.
On a parlé des certains auteurs qui ont coté pour vous, mais il faut en redire un petit mot pour terminer cet entretien, si vous voulez bien, Olivier Rollin. Vous avez évoqué Proust, on peut parler de Faulkner, de Joyce, donc des écrivains qu'on peut dire difficiles, dont la lecture en tout cas ne se donne pas facilement. Pourquoi est-ce que c'est ces auteurs-là particulièrement qui vous accompagnent ?
Bon, d'abord, ils m'accompagnent, de différentes façons. Proust, je l'ai relu il n'y a pas tellement longtemps, ce qui m'a d'ailleurs permis de dire une bêtise, ce qui ne m'a pas évité de dire une bêtise plutôt, mais ce que je ne regrette nullement, dans un livre qui s'appelle Veracruz, où je dis qu'il n'y a jamais question de vin ou d'alcool, etc., dans toute l'étendue de la recherche du temps perdu, et c'est pas vrai du tout, il y a le cognac de sa grand-mère, enfin, etc. Bon. Donc, dès que j'ai écrit ça, aussitôt, j'ai été démenti par quelqu'un qui m'a dit comment, bon. Enfin, bon, bref. Bon, Proust, donc, disons qu'il m'est encore assez présent parce que je l'ai relu il y a pas trop longtemps. Joyce, ce serait tout à fait prétentieux de dire j'ai appris à lire tant de Joyce, mais j'ai appris en tout cas l'idée que je pouvais me faire de la littérature moderne, de la littérature correspondant aux grandes révolutions artistiques du XXe siècle, quoi. J'ai appris ça en lisant Ulysse. Ulysse, qui est, il y a longtemps. Alors, mais après, j'en relis de temps en temps des chapitres. Bon, je pourrais pas dire que c'est un livre simple, mais je n'ai jamais trouvé que ce soit un livre ennuyeux. Au contraire, je trouve qu'il y a des passages qui sont d'une drôlerie extrême, et quelquefois d'ailleurs scatologique, enfin une drôlerie un peu rabelaisienne, un peu bon. Voilà. Mais en tout cas, c'est un livre donc qui ne m'accompagne pas régulièrement, mais qui a compté énormément dans ma découverte du fait qu'on n'écrivait pas au XXe siècle comme du temps de Stendhal, par exemple.
Oui, on entend Olivier Rollin, vous citez les auteurs du XXe siècle, vous n'avez pas cité les auteurs du nouveau roman, pourtant vous êtes penché sur cette épineuse question de la description dans au moins deux romans suite à l'Hôtel Cristal, oui. Et à Y regarder de près, on en parlait tout à l'heure avec Éric Demazière qui est illustrateur, deux romans qui ont été publiés en Seuil en 2004 et 2015, oui, donc vous allez me contredire sur
oui, non, parce qu'il y a un auteur, c'est vrai, il y a un auteur qui au contraire dit du nouveau roman, bien que tout le monde sait que ça n'a pas beaucoup de sens, mais enfin bon, pour lequel au contraire j'ai une grande admiration et que il m'arrive de relire un peu, etc., qui est Claude Simon. Et voilà, l'Acacia, les Géorgiques, enfin, c'est au contraire, c'est un des... si je devais plier à cet exercice un peu sot qui consiste à dire les 5 ou les 10 auteurs, etc., qui ont compté pour vous, je mettrais certainement Claude Simon. Mais Pérec aussi. Encore une fois, je suis navré, peut-être que cela décevra certains d'entre vous, mais j'écris de façon, je crois, assez éclectique, en tout cas des livres qui ne se ressemblent pas les uns les autres, mais mes saints patrons sont aussi des gens assez différents les uns des autres, parce que je ne sais pas s'il y a quel rapport on peut faire entre Pérec et Claude Simon, par exemple. Bon. Et puis, il y a aussi des auteurs beaucoup plus simples. J'aime à citer dans les livres du XXe siècle qui m'ont impressionné et que je cite souvent, il y a Grossmann, Vieux Destin, bon, qui est un monument, mais d'architecture parfaitement classique. Quoi. Bon.
Vous êtes livré à un exercice assez intéressant.
Il y a Homer aussi, pardon. Il y a Homer, pardon, bon, oui, j'ai écrit pour les potées, aussi sur Homer. Bon, il ne faut pas l'oublier, mais...
Vous êtes livré justement à un exercice récemment, Olivier Rollin, qui est celui de rassembler vos écrits, de les compiler dans Circus, donc deux volumes, deux gros volumes publiés en 2011 et 2012. Est-ce que vous avez réussi à répondre à cette question, et ce sera ma dernière, est-ce qu'on progresse dans son art ?
Oui, je crois quand même. Enfin, en tout cas, on évite les affaîtries là dont je parlais, les coquetteries de style, les petites prouesses vaniteuses que je me permettais au début, je ne me les permets plus, je n'en suis même pas tenté d'ailleurs. Pour faire rire, ça vous fera peut-être pas rire, faut jamais dire ça, parce que si vous riez pas. Mais, je me souviens que donc dans un livre, je parlais d'un verre de menthe à l'eau, et j'avais qualifié cette menthe à l'eau de smaragdine. Parce que smaragdine, c'est l'adjectif qui est formé sur le mot émeraude, quoi. Bon, c'était une menthe à l'eau smaragdine. Bon. Eh bien, je ne dirais plus que c'est une menthe à l'eau smaragdine, d'une part parce que c'est un pléonasme, puisqu'il n'existe pas de menthe à l'eau qui ne soit verte, et d'autre part parce que c'est une préciosité, quoi, voilà. Bon, alors ce genre de bêtises là on progresse, oui, on les fait plus. Oui, je crois qu'on écrit, je pense que j'écris mieux. En même temps, c'est on n'est jamais content, quoi. On n'est jamais content parce que je me dis, oui, t'écris quand même, oui, voilà, il y a moins de scories, mais en même temps, j'ai perdu peut-être aussi une fantaisie, une énergie, l'énergie qui m'a amené à faire l'invention du monde. L'invention du monde, en plus, comme c'est un livre qui, là, je ne lui reproche rien à ce livre. Bon, mais comme c'est un livre qui décrit le monde entier et des scènes extrêmement différentes, alors là, justement, j'utilise toutes sortes de longueurs d'onde, depuis le théâtre de boulevard jusqu'à oui, l'Iliade. Bon, oui, donc voilà, peut-être ai-je perdu, peut-être ce que j'ai gagné en sagesse, je l'ai perdu, je suis un animal moins sauvage, peut-être, c'est préoccupant, quoi.
Merci beaucoup, Olivier Rollin. Oui.
C'était la masterclass d'Olivier Rollin avec Raphaël Bourgois. Attaché de production, Mathieu Maroudin. Coordination, Arnaud Laporte. Réalisation, Olivier Guérin.